Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Notre lutte est tout près. La tendresse est comme le désordre. Tout pousse. Nous dansons, remuons nos popotins. C'est une fête au cœur de la catastrophe, dans l'isolement, dans le noir. Nous avons allumé des bougies, une guirlande. Tu es l'avenir. Tu es une fleur solide. Et papa et moi, deux fosses profondes à côté de toi, la nuit, dans le jardin.
Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Marina Skalova à l'occasion de la publication de sa traduction du recueil de poésie « Tu es l'avenir » de la poétesse Galina Rimbaud aux éditions Vent l'eau. C'est parti. Bonsoir Marina.
Bonsoir Soazic.
Je suis, alors ton travail de poétesse, depuis longtemps, avec notamment des parutions en poésie et en théâtre. Donc vraiment, tu es l'autrice parfaite pour cette librairie. Mais si on te reçoit aujourd'hui, ce n'est pas exactement avec tes mots uniquement, mais ce sont tes mots accompagnés, ou en tout cas qui traduisent, ceux d'une autrice qui s'appelle Galina Rimbaud, dont le livre est paru récemment aux éditions Vent l'eau. Ce livre s'appelle « Tu es l'avenir ». Comment est arrivé ce travail de traduction jusqu'à toi ?
Alors, donc Galina Rimbaud, c'est une autrice que j'ai découverte il y a 5 ans, je pense. Ce que je commençais à m'intéresser, enfin à me poser des questions en fait sur l'histoire du féminisme en Russie, le fait que je suis moi-même née dans ce pays et que j'ai toujours, enfin ce que j'ai connu de la Russie était surtout un système familial extrêmement patriarcal et un certain nombre de voilà de d'évidence ancrée dans la langue, beaucoup de choses systémiques qui me semblaient beaucoup plus rétrogrades, ou en tout cas la libération sexuelle n'était pas passée par là, enfin ou en tout cas c'est il y a une autre histoire du féminisme en Union soviétique et en même temps une histoire du féminisme très forte. Et donc j'ai d'abord commencer à vouloir creuser et à m'intéresser à cette histoire et en même temps à découvrir de la poésie contemporaine russe et à tomber sur, à découvrir très vite que la scène poétique féministe était extrêmement vivante en Russie et qu'il s'y passait des choses incroyables, juste après MeToo, avec des voix d'une radicalité, d'une intensité, d'une profondeur que j'entendais pas en France non plus à ce moment-là et qui en même temps me parlait très profondément parce que elle venait d'un monde dont j'étais issue même si je vivais en Europe et que j'avais grandi en Europe. Donc il y a eu quelque chose d'assez profond qui s'est passé à ce moment-là et surtout avec Galina Rimbaud et entre poésie, théâtre, traduction, enfin, moi, je me pose pas la question du genre, elle m'intéresse pas du tout. Et par contre, c'est une nécessité de langue et ces textes-là, il y avait une nécessité physique très forte et une nécessité de les partager, de les faire entendre. Donc, j'ai assez vite commencé à traduire, à envoyer à des revues pour faire connaître cette voix-là. Et puis, tout de suite, il y a eu quelque chose de très fort qui se passait, en fait. Parce que c'est une écriture qui est très corporelle, politique, mais qui traverse le politique par l'intime et qui traverse énormément de choses, qui s'arrête pas justement à un style, une petite chapelle, qui peut être lyrique, qui peut être narrative, qui peut être conceptuelle, qui fait exploser tout ça, qui rend tout ça poreux, qui circule entre ces frontières génériques et c'est beaucoup aussi ce qui m'a intéressée.
Oui, et tu notes dans ta préface, je dois digérer le texte puis le recracher. Donc, c'est une image quand même très forte de ta façon de lire et de t'approprier d'une certaine manière, ou en tout cas de faire passeuse de texte d'une langue à l'autre. Mais ce qui m'a d'autant plus interpellée, c'est ta nécessité de le voir, ce texte, en français. Ça, je me suis dit, alors que tu comprends de ce fait le russe, puisque l'autrice écrit en russe à l'origine, tu comprends ça, et pour autant, t'as quand même envie de le traduire. Alors, moi, de ce que j'ai lu, c'était évidemment pour le rendre disponible aux francophones, mais c'était aussi une nécessité de le voir écrit dans ces mots-là.
Bah, je pense que traduire, c'est écrire avec. Enfin, donc, et donc, quand on est, en tant qu'autrice, appelée par un texte à traduire, enfin, c'est qu'il y a un désir de ce texte, quelque part. Et en même temps, bah, il passe à travers notre corps, ça devient forcément un autre texte, et en même temps, on essaye de lui rendre justice le mieux possible. Je sais pas, enfin, mais c'est une rencontre très corporelle et assez unique que permet la traduction. Et c'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment seulement certains textes qui vont déclencher ça, mais ça va être complètement du même ordre physique, de l'ordre de l'obsession, comme peut l'être l'écriture de textes personnels. Sauf qu'on n'a pas, en fait, c'est qu'on n'a pas à se débattre avec sa propre matière. On n'a pas, on n'est pas encombré par tout ce qui est nous-mêmes dans un texte et toutes les résistances qu'on peut avoir pour se mettre à écrire, ce qui est aussi 90% de l'écriture en fait. Et en même temps, par contre, c'est la langue qui est là et c'est de travailler sur cette langue pour qu'elle puisse résonner en français et pour créer un texte en français.
Il y a quelque chose de l'ordre du viscéral, de l'organique, dont tu as parlé étant une essence même du texte de l'autrice, mais pas que, en fait. Là, c'est une résonance qui est d'autant plus incroyable que tu parles de ce principe d'écho politique dans la langue de l'autrice. Et donc, d'avoir comme ça, ça rebondit entre elle, son corps, ses engagements, toi, ton corps, tes engagements, vos liens ancestraux, on peut dire comme ça, ou en tout cas géographiques, de langue. Enfin, c'est assez vertigineux quand on pense à tout ce qui peut être possible. Et j'ai un peu cette image de la balle qui rebondit à tout plein d'endroits comme ça. On peut faire sens de beaucoup de choses entre vous deux, au final.
Ouais, mais ça, en fait, je pense que c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est-à-dire que en ce moment, par exemple, il y a un collectif en chair et en os qui s'attache à expliquer que la traduction littéraire est une activité humaine et que non, on peut pas être remplacé par des machines. Et c'est justement ça, parce que la traduction fait éminemment appel à la subjectivité des traductrices, traducteurs, et que effectivement, enfin, moi, il y a un certain nombre de ponts, de voilà, d'écho biographique avec Galina Rimbaud. Et en même temps, pas du tout, parce que je n'ai pas grandi en Russie, j'ai grandi en Occident, je ne viens pas de Omsk, donc de la périphérie. J'étais en Europe pendant les années 90, donc j'ai vécu une réalité qui est celle de l'exil, mais qui n'était pas celle de la misère post-soviétique. Donc, il y a une altérité qui est claire. Et en même temps, j'ai aussi milité dans des milieux anarchistes comme elle. J'ai aussi fait des études de philo. J'ai aussi des engagements féministes. Donc, on est de la même génération. Donc, il y a beaucoup de choses qui font lien et qui font que qu'il y a des expériences qu'elle décrit, que je partage dans un autre espace géographique. Et la question de l'utopie, la question politique qui nous relie vraiment parce qu'elle pose sans cesse la question de comment, au sortir de cette histoire soviétique, penser l'utopie, quel avenir inventer, quelle lutte est encore possible. Et que pour moi, ce sont des questions profondes, et que ce sont aussi les questions que pose l'écriture pour moi, qui pose la question de que peut la littérature, que peut l'écriture, et donc ça me parlait vraiment profondément. Et en même temps, il y a autant de choses qui font qu'on est, que c'est une autre personne, que ce n'est pas identique, qu'on n'est pas dans la fusion, et que traduire, c'est autant respecter cette altérité que se l'approprier aussi. Et et puis il y avait aussi la question du geste, de la légitimité, qu'à un moment donné, ça m'a paru aussi plus important, connaissant cette voix-là, connaissant la voix de Galina Rimbaud, de la faire entendre ici, plutôt que d'écrire mon propre petit truc en ayant été nourrie de tout ça sans le rendre apparent. Enfin, ça me paraissait aussi en fait plus juste et plus important de laisser ma place à ce moment-là. Enfin.
Oui, et c'est justement, je te disais ça en amont de la rencontre, je me souviens très bien en fait des moments où tu as parlé en fait de ces textes que tu traduisais et que tu publiais sur Facebook, et on avait comme ça en fait au moment de l'invasion, de l'agression russe en Ukraine, une sorte de fenêtre en fait sur une poétesse qui était en Ukraine, qui écrivait en russe, qui n'avait aucune visibilité ici, et tu donnais à voir à ce moment-là. Enfin, j'ai été très saisie en fait de ce travail de passeuse, de transmission, d'ouverture, de tu nous apportais en fait une langue que moi j'avais pas à laquelle j'avais pas accès à ce moment-là, et ça m'a énormément marquée en fait, mais vraiment. Donc déjà merci pour ça, parce que je pense que Facebook, je dois y aller vraiment que pour publier les événements de la librairie, et donc j'ai pas une consommation de Facebook comme on pourrait se dire d'un blog de poésie, ou je sais pas, enfin blog, je sais même pas si ça existe encore, mais je veux dire, et là en fait tu as saisi, et je pense que je suis pas la seule, je pense qu'on a été assez nombreux, nombreuses à avoir été saisies de ce travail-là que tu as fait. Et à ce moment-là, tu travaillais déjà sur la traduction ? Ok. Parce que ça, ça se donnait pas à voir. Enfin, on avait... Je ne le savais pas que ça allait donner un livre après. Mais donc, tu étais déjà en lien avec Galina ?
Oui, mais parce que... j'ai commencé à la traduire en 2019 et j'ai signé le contrat avec les éditions Von Lo à l'été 2021. Et donc, à ce moment-là, on pensait traduire donc son dernier livre qui s'intitulait « Tu et l'avenir », mais qui commençait par un cycle de poèmes assez apaisé par rapport à ce qu'elle avait pu écrire avant, c'est-à-dire que ce qu'elle avait commencé par écrire des textes vraiment assez enragés dans la Russie des années 2010-2012, en plein dans les manifestations, enfin dans les dernières manifestations qui ont été possible, puis qui garde des traces de l'université européenne de Saint-Pétersbourg qui avait été fermée, qui s'est transformée en université de rue. Donc, en fait, c'était une poésie ouvertement engagée, très combative, et qui ensuite, cette réflexion sur l'utopie, elle s'est plutôt déplacée sur comment faire utopie concrètement avec les personnes avec lesquelles on vit, avec les animaux, enfin, avec quelque chose d'une douceur beaucoup plus grande en Ukraine, donc où elle a choisi de s'installer avec sa famille, et c'est peu après ça que l'invasion russe est arrivée, et donc ça a amené à repenser le livre aussi, enfin voilà, bon, ça, tout a été remis en cause de beaucoup de manières au cours de l'année 2022, et en même temps, donc c'est l'année pendant laquelle elle a écrit le cycle de poèmes Traces qui ouvre le livre et qui est infiniment précieux pour moi, et qui a d'abord, c'était des notes qu'elle écrivait dans sa cave, qu'elle prenait dans sa cave où ils se sont abrités quasiment pendant toute l'année par peur, et en même temps ce qu'elle pose dans ce texte, les questions essentielle, du fait qu'elle écrit en russe, du fait qu'elle est en train de se faire bombarder par la Russie en tant que personne avec un passeport russe vivant en Ukraine. Qu'elle se retrouvait dans un entre-deux très violent. Et pour moi, d'avoir la chance à la fin de cette année 2022 d'accompagner ce texte qui, pour moi, disait la chose la plus juste, parmi tout le blabla journalistique, tout ce qu'on a entendu au cours de l'année 2022, juste de pouvoir poser ce texte-là, ça a été étrangement réparateur.
Oui, parce que, petite note biographique, Donc, Galina Rimbaud est née en Sibérie en 1990. Ça permet aussi de situer, en fait, de quelle vague de poétesse, de quelle génération aussi elle est. Et elle a déménagé en Ukraine en 2018. Donc, c'est vraiment... En fait, au final, ça faisait pas si longtemps que ça, en fait, qu'elle était là. Et donc, on entend d'autant plus, justement, ce que tu disais, de devoir, en fait, vivre un conflit en étant dans une position qui devait être extrêmement particulière. De... Et elle en parle beaucoup, de ce truc de devoir... Parce qu'elle a un enfant qui est avec elle. De devoir aussi expliquer ça, en fait, à cet enfant... de ce double endroit, de comment, en fait, on fait sens de ce qui n'en a pas, en fait. Elle va passer, enfin, toute cette première partie du livre, c'est vraiment une poésie. Oui, comme de ce fait que tu dises que c'est des notes, ça s'entend. Il y a quelque chose de plein de petits passages, des choses qui ne se relient pas les unes aux autres, mais qui vont s'enchaîner d'une certaine manière. Alors, il y a tout un... Évidemment, une danse de ponctuation, etc., qui nous permet de bien comprendre les petits passages. Mais il y a quelque chose comme ça, de parfois un peu décousu dans les thématiques qu'elle aborde. Mais parce que je pense que c'est aussi des périodes qui ont dû être extrêmement décousues à vivre, en fait, en général, et de faire sens de... Oui, on vit enfermé. Avec, je crois que c'est son conjoint, je crois, qui ne sort pas du tout, qui a décidé de ne plus du tout sortir. Et donc, comment on fait sens avec la vie, l'extérieur, quand on ne sort pas, quand on est à un endroit en tant que déplacé, que cette fameuse patrie nous attaque. Et donc, enfin, c'est fou. Il y a quand même, dans sa langue, on sent tout ça, en fait. Cet endroit-là, typiquement, avec Trace.
Et puis... En fait, pour moi, ce qui a été incroyable, c'est qu'elle a cette capacité à nous le rendre proche, alors que ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est la séparation. Enfin, c'est-à-dire que moi, toute l'année, j'ai ressenti la culpabilité d'avoir des personnes proches de moi qui étaient dans cette réalité-là et puis d'être absolument séparées, de n'avoir aucune possibilité d'imaginer ce que cela pouvait être de vivre ça. Bon. Ce que j'ai toujours pas, parce que je ne l'ai pas vécu. Mais disons que là, la question « qu'est-ce que peut la poésie en temps de guerre ?» et tout ça, la poésie a la capacité de nous rapprocher. Mmh. Et je pense que pour nous, vivant dans cette Europe quand même très privilégiée, c'est très important.
Mais elle va passer... Alors, toutes les premières pages de ce fait, hein, cette première partie... qui s'appelle Trace de ce fait, va beaucoup faire ce pont-là entre ce qu'elle vit et ce que la poésie peut apporter. Mmh. Et je vais me permettre de lire un petit passage que j'ai noté qui fait partie de la première page. Donc vraiment, on entre directement. « Depuis la Pologne, des médicaments sont en route vers nous. Je ne sais pas si c'est déjà dangereux ou pas, encore. Lesquels des lieux intérieurs sont déjà occupés? Quelle nourriture peut encore se trouver dans notre maison ?» sans être coupable, et ta main qui effleure, et les larmes, elles sont encore libres. Et là, je trouve que directement, en fait, on a des choses très concrètes de la vie, comme elle s'organise, les médicaments qui viennent de Pologne. Et en fait, elle va nous... Il y a quelque chose de sa poésie très tendre, dont tu parlais dans ses précédents recueils, qui arrive avec ce truc du du toucher, de s'effleurer, de remettre en fait leur humanité au cœur de ce truc qui ne fait aucun sens pour elle d'avoir des choses de l'extérieur. Est-ce qu'on doit être coupable de manger alors que d'autres n'ont pas à manger?
C'est... Et puis est-ce qu'en tant que Russe, elle est déjà coupable? Parce que c'est toujours ça aussi, quoi, en fait. C'est dans ce corps qui est dans les deux espaces en même temps.
Carrément.
Enfin, qui appartient à l'un et qui est... Ouais. Qui est agressé par celui auquel il est censé appartenir.
Ouais.
Tout
à l'heure, tu parlais d'un texte qui s'appelle « Tuer l'avenir ». Et on s'est dit qu'on... Parce que là, je vous ai lu un tout petit extrait, mais je pense que c'est d'autant plus chouette que tu puisses les lire toi. Est-ce que tu serais OK de nous lire « Tuer l'avenir » ? Comme ça, là, on a deux langues qui vont tout de suite...
Ouais, est-ce que tu serais d'accord pour que j'ajoute un petit bout de « Été portail carrément. Du corps » ensuite ?
Tu es l'avenir.
Nous avons traversé toute une époque, de Peppa Pig à Naruto. Je compte les trous du temps dans les poches des pantalons. Nous le savons, les temps changent. Il y a ceux où on peut se commander une pizza et ceux où je taxais la monnaie pour le lait en boîte. Je me souviens qu'avant, tu craignais même l'odeur de l'oignon, alors qu'aujourd'hui, tu l'étudies déjà au microscope. Tu ne parles pas. Et voilà que tu dis déjà, tous les présidents s'en foutent. Et nous aussi, sans doute, un petit peu, mais différemment. Nous sommes chaotiques, inquiets, et papa porte mon t-shirt, des boucles d'oreilles noires. Il est si beau, avec sa barbe de 3 jours. Il nous porte par-delà les frontières sur ses grandes paumes. Et notre maison est un pays, retranché de tout. Une commune anarchiste, où les chats sont nos égaux. Ils dorment sur la table. Ève, Joseph, Moïse, tu écris « A ». Tu dis oui, un gouffre s'ouvre, tu dis, il faut tout changer. Nous fêtons tes 7 ans, allongés sur le canapé, enlacés, nos corps brûlent l'espace, tu es l'avenir. En nous, toujours plus d'amour, nos esprits sont instables tels des volcans, et en eux, une lave de mots ardents, nos visages sont humides, et le monde, tellement libre, un peu ivre, il fume dans notre cour, nous régale de vers et de petites souris, comme toi. Il divise tout par 2 et par 3, ce qui donne une multitude. Notre lutte est tout près. La tendresse est comme le désordre. Tout pousse, nous dansons, remuons nos popotins. C'est une fête au cœur de la catastrophe, dans l'isolement, dans le noir. Nous avons allumé des bougies, une guirlande. Tu es l'avenir, tu es une fleur solide. Et papa et moi, deux fosses profondes à côté de toi, la nuit, dans le jardin. Oui, je vais vous lire un petit bout, donc le début d'un long poème qui s'appelle « Été, portail du corps ». Pourquoi a-t-elle posté les entrailles d'un chien mort sur Instagram ? Sous un arbre, mélangé à la terre, c'est déjà la fin ou pas encore ? Des afflux de terre liquide grondent dans mon ventre toute la journée. La raison se tait, le corps s'écroule. Cette nuit, le lit sous moi a pris feu. 2. On dit qu'après avoir mis un enfant au monde, il faut rester un peu seul et l'attendre à nouveau, et puis attendre qu'il se mette à parler alors qu'il s'est déjà mis à parler, mon fils. Une fois, la nuit, je te regardais dormir et l'amour a jailli du plafond comme un liquide amniotique trouble. Le monde qui nous attend, dur comme pierre, solitaire, tel un atelier abandonné dans une zone industrielle, avec des bardanes géantes qui prolifèrent à l'intérieur, des colonies de vers aveugles, des rayons de soleil noir. Je t'ai tellement attendu, petit garçon, pour après attendre encore et encore, m'effrayant parfois à l'idée que quand tu étais en moi, je t'aimais à distance. 3. La langue cogne contre ses frontières. Épisode dépressif, 3e jour. Sur la table, menthe morte et aneth froid, baie sans saveur. La langue ne franchira pas ses frontières. Là-bas, c'est du sérieux. Là-bas, à l'intérieur des frontières, des types armés de calage font des rondes jour et nuit. Angoisse. Le monde est comme l'eau bouillante que tu dois boire par petites gorgées quand tu es malade. Qui aime ça ? Cuisine sale, graisse, dedans et dehors. Même les reflets du soleil qui s'étirent jusqu'ici à travers les feuilles de vigne derrière la fenêtre parlent de dysphorie. Torpeur abrutie, j'ai le hoquet.
Donc là, les deux textes font partie du recueil qui s'appelle « L'espace mouvant du renversement ».
Non, tu es l'avenir. Ça, ils font partie du dernier, ces deux-là.
Ah. Donc, ces deux textes font partie du recueil qui s'appelle « Tu es l'avenir ». Pardon.
Donc, « Tu es l'avenir » dans « Tu es l'avenir ».
Je suis allée trop vite.
Non, mais puis j'avais envie de rajouter ce petit bout parce que là, il y a aussi cette façon qu'elle a d'écrire la maternité de façon très simple, alors que ça ne va pas de soi du tout en tant que poétesse de visibiliser cette partie-là de son existence et qu'elle en visibilise autant les aspects les plus trash, on va dire, ce qu'on a, un poème important qui s'appelle Mon vagin, qui commence juste au moment où son vagin expulse cet enfant, la dépression maternelle, et en même temps, l'immense tendresse, Et voilà, et c'est vraiment cette façon de, d'accompagner la vie, de la traverser entièrement comme si ne rien n'était, alors qu'elle sait très bien que ce sont des gestes politiques à chaque fois, que ça n'a rien d'anodin en tant que femme qui sera toujours assignée à cet endroit-là, de s'en emparer pour l'écrire, enfin, voilà, aussi majestueusement, je trouve.
Oui, et puis de vraiment rendre compte de plusieurs réalités en même temps. Parce que c'est vrai que c'est pas anodin que de faire exister dans un même poème l'anniversaire de son fils, la situation politique. Et c'est exactement son ressenti du corps, de comment elle se souvient avoir mis au monde, etc. Et c'est ces endroits-là, c'est exactement ce dont j'ai même déjà parlé, ce principe de l'éco-politique. Alors, je ne sais pas cette notion-là, si c'est d'où ça vient. Enfin, c'est toi qui le nomme ainsi, c'est elle qui. C'est un terme qui existe réellement ou qui. Enfin, je veux dire dans le sens, elle n'est pas la seule.
Non, c'est pas un concept.
Non, d'accord.
Ouais, non, c'est non, mais oui, enfin un peu le corps comme chambre d'écho du politique,
oui, oui.
Et en même temps comme lieu d'où part l'écriture et. Voilà, qui est nommée dans l'écriture à la fois en tant que lieu d'empouvoirment, mm-hmm. Enfin, ce qu'elle écrit, mon vagin, c'est le corps, l'affect, la politique, enfin... Donc, à la fois lieu d'empouvoirment et en même temps lieu qui est sans cesse investi par des dispositifs de pouvoir dont on est sans cesse dépossédé, qui ne nous appartient pas et qui... C'est pour ça qu'il faut que l'enjeu de réappropriation par l'écriture est aussi fort. Voilà, et c'est fait en nommant les dispositifs de pouvoir et en même temps en ne laissant pas l'écriture être écrasée par eux à partir du moment où ils sont nommés. Enfin, il y a aussi voilà cette façon de travailler avec le discours politique, avec la langue philosophique. Pour les tirer vers la poésie. Et je trouve qu'elle y arrive assez bien, en fait, alors que c'est l'un des pièges de se faire écraser par le discours,
Mais oui.
Par la pensée. Enfin, voilà, c'est aussi vraiment ce travail, un travail de référence, de référence philosophique. Enfin, voilà, il y a une énorme érudition derrière. Et en même temps, c'est complètement ancré dans notre contemporain, dans un contemporain militant et poreux à plein d'endroits.
Oui. Et il y avait toute cette réflexion aussi sur le fait de s'adresser aux classes populaires aux opprimés. Toujours, hein, je me suis beaucoup appuyée évidemment sur la préface que tu as faite, qui est vraiment... très bien, parce qu'elle nous accompagne aussi dans toutes les réflexions que tu as pu mettre dans ta traduction et dans les points importants auxquels il fallait faire en effet très attention. Donc ce principe-là de ne pas penser en fait la langue comme simplifiée puisque voulant être accessible. Et ça, cet endroit-là, il est, d'un point de vue de la lutte, du militantisme, de l'engagement, c'est hyper important, j'ai trouvé... Tu veux bien nous en parler un petit peu ?
Je peux peut-être lire un petit extrait.
Tout à fait.
Qui répond un petit peu. Enfin, voilà, parce que je crois que... qu'il y a vraiment cette question de comment parler à mon père. Ce qu'elle dit, c'est son père qui a un corps mutilé par l'usine où il a travaillé toute sa vie. Et de dire, OK, moi, qu'est-ce que je peux faire avec la langue ? Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça ? Et à la fois... rendre justice à cette histoire-là. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est ? Elle dit, je crois que je ne saurais jamais qu'est-ce que c'est une langue qui s'adresse aux travailleurs. Et elle dit que... Voilà, enfin, que c'est un fiasco total de croire qu'une langue simplifiée, soi-disant grand public... Enfin, voilà, et c'est vrai que c'est le piège des journalistes, c'est le piège... dans lequel on cherche sans cesse aussi à nous faire tomber lorsqu'on nous reproche que la culture serait ceci et cela et qu'il faudrait que la culture soit comme ci ou comme ça pour parler à telle personne dont on ne sait rien, en fait, qu'on présume sans arrêt avec une condescendance qui est super problématique. Mm-hmm. Et de dire que le lieu de l'expérience de l'oppression, c'est un lieu complexe où se croisent désirs, fantasmes, publicité, manipulation, propagande, et comment on exprime ce grouillement-là plutôt que de le restreindre. Enfin, voilà. Mmh. Et je lis un petit bout. Mmh. Notre quartier était le seul où il y avait autant d'usines. L'usine pneus, l'usine cordage, l'usine oxygène, que personne n'a jamais vue. Rien que des boîtes grises, pas une fumée, pas une lumière. L'usine automatique, l'usine brique, l'usine asphalte, la centrale électrique, l'usine en vol et la perspective cosmique. Et une fois de plus, c'est comme si le soleil avait inondé les souvenirs. L'usine où on préparait des glaces, et même au cimetière, à côté de la maison, une petite usine où on fabriquait des cercueils, et beaucoup d'écoles, car on faisait beaucoup d'enfants, et des garçons qui partaient tous à l'armée, qui ne savaient sûrement pas pourquoi et à quoi bon cette armée, qui entendaient rarement le mot « troupe » et encore plus rarement le mot « histoire ». C'était notre histoire, et maintenant, ce n'est plus que l'histoire du prolétariat qui devient le précariat. Et de la fonte d'un grand soleil noir et fangeux, la fonte d'un bloc à la lumière de nouveaux travaux. Comment être quand eux ont un couteau qui, à chaque instant, peut ? Et toi, tu n'as rien sauf le désir de parler autrement, mais avec eux, dans leur langue.
C'est fou comment en plusieurs extraits, on entend plein de langues différentes. Elle écrit vraiment très différemment. Et bon, évidemment, on peut s'en rendre un petit peu compte parce que c'est un recueil et donc il y a plusieurs étapes. Mais ça a dû être intéressant au niveau de la traduction, de se rendre compte aussi de la chronologie, de comment, en fait, il y a eu des premiers textes, comme tu disais, qui rendaient compte d'une certaine réalité, d'un quotidien, d'une vie ensemble, d'être arrivé ailleurs, d'un déplacement, etc. Mais aussi, pour le coup, d'elle, d'une certaine nostalgie ou... Enfin, de ce qu'elle a pu vivre en Russie, etc. Et après, quelque chose de plus lapidaire, comme on a pu avoir sur les premiers écrits, plus court, plus restreint, comme si elle avait moins le temps de s'épancher, moins... et épancher dans le sens moins le temps de prendre le temps d'écrire. Il y a peut-être ça aussi, en fait, de l'urgence de dire. C'est fou d'avoir tout ça, en fait, en un seul recueil.
Mais en même temps, moi je trouve ça chouette, parce que justement, parce que ça casse complètement l'idée que un écrivain a un style et qui s'installe dans son petit, ou qu'il ou elle s'installe dans son petit style et dans sa petite musique ronronnante et ne fasse plus que ça, parce qu'en fait c'est, enfin en tout cas, bon, je comprends, parce que c'est assez proche de mon expérience d'écriture. Qui, en fait, quand on écrit, il y a aussi le fait de se mettre en fragilité chaque fois de nouveau pour aller ailleurs, pour aller plus loin, et de rejeter ce qu'on a pu faire avant, et de justement de ne pas s'installer dans une forme. Et voilà, donc elle parle de stratégie d'écriture poétique et de dire qu'elle les a toutes explorées et que elle se heurte à telle ou telle limite et qu'elle a besoin d'aller plus loin. Et voilà, et en fait c'est quand même aussi dans ce frottement qu'est le travail, plutôt que d'ériger tel ou tel style en école, en idéologie, enfin tout ça, quoi, en fait. Ouais. Et donc voilà, donc c'est que c'est en mouvement, c'est en recherche, et parce que c'est traversé par par de la poésie russe, par de la poésie américaine, enfin c'est quelqu'un qui lit énormément de la poésie du monde entier, enfin, et ça se sent aussi, quoi.
Ce qui est intéressant ici en plus, c'est que toi, donc, tu as fait cette pièce de théâtre, La chute des comètes et des cosmonautes, qui a été publiée chez L'Arche, et qui, en fait, il y a un certain ping-pong, en fait, que tu nous révèles dans la préface, qui va croiser, en fait, ce livre, si tu peux nous le raconter.
Non, mais c'est que j'avais travaillé sur... les utopies de l'espace, enfin à la fois, ouais, l'imaginaire utopique et en même temps le fantasme de conquête spatiale, enfin voilà, qui était inhérent à l'Union soviétique, mais qui, je pense, voilà, un peu constituait l'imaginaire de plein de d'enfants, enfin qui ont grandi en Union soviétique ou même enfin à la fin de l'Union soviétique. Et voilà, et puis ben, moi, pour moi c'était un imaginaire qui a ouvert beaucoup de choses, qui m'a, et puis la pièce venait d'être jouée, enfin, et très peu après j'ai découvert Perspective cosmique en fait, et qui parlait justement de cet endroit-là, qui était, enfin, donc, la perspective cosmique, qui était l'avenue en bas de chez elle, et à travers laquelle, justement, elle abordait à la fois la promesse utopique de l'Union soviétique et ce qu'il en reste, et voilà, où on la voit, elle, avec son fils, dire en fait, on n'ira pas dans l'espace, on n'ira nulle part, on sera juste les losers et les perdants de toute cette histoire. Et voilà, et en même temps, bah, ça rejoint des questions que je posais dans la pièce, et en même temps, bah, c'est normal, parce que c'est notre héritage quand on sort de ce pays, quoi. Et donc, c'est normal que ça dialogue, et en même temps, c'est vrai que la coïncidence était frappante au début, mais en fait, c'est générationnel, c'est aussi une tentative de mettre des mots sur cette expérience, sur ce moment de l'histoire d'où on a été crashé, avec les motifs forts qui l'ont marqué et qui étaient aussi générateurs d'imaginaire.
Mmh. Oui, je me souviens très bien quand j'ai découvert cette pièce-là, d'avoir en plus en fait quelque chose d'un huis clos. Parce qu'ils sont dans une voiture, c'est le père et la fille dans une voiture. Donc elle, et n'hésite pas à me corriger, parce que je l'ai lu il y a longtemps, donc peut-être que je me suis fait ma propre histoire de ton livre, ça peut arriver. Mais elle est en rupture, elle vient d'avoir une rupture assez violente amoureuse, donc elle est en chagrin d'amour total. Elle décide de s'enfermer dans une voiture avec son père pour aller en URSS.
En Russie.
Parce qu'il a je sais plus ce qu'il a à faire, mais c'est un truc avec une voiture, il doit la déposer ou en récupérer une autre, enfin il y a un marché en tout cas qui se met en place. Mais elle qui n'est pas proche de son père, ou en tout cas on sent qu'il y a quand même quelque chose de pas facile entre eux deux, décide quand même à ce moment-là de vivre ça dans une voiture avec lui. Enfin moi j'ai trouvé ça fou. Et tout ce truc d'être très éloigné et en même temps d'être relié, c'est quelque chose en fait qu'on peut vous mettre en ping-pong. Enfin on voit bien en fait dans vos écritures que ça peut faire un peu cet écho-là. Alors, c'est évidemment tout à fait différent. C'est une pièce de théâtre, c'est de la poésie. Enfin, même si, comme tu disais, les genres littéraires sont faits pour être abolis. Mais il y a quelque chose, même, en fait, dans les situations, dans ce fameux road trip poétique, j'adore, c'est une belle façon de le dire, des choses qui vous relient aussi dans les thématiques.
Bah ouais. Et puis ça, c'était vraiment cette question de... Quelle utopie encore ? Enfin, bon, la pièce est plus sombre, en fait, que ce qu'écrit Galina Rimbaud. Mais je crois que ça a posé quand même un peu, vraiment, ouais, cette question d'héritage, de comment on fait pour vivre lorsqu'on a deux systèmes antagonistes qui se collisionnent à l'intérieur de son corps. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ?
Tu parlais d'être de la même génération que Galina, et je te disais que c'était notamment avec Tu es l'avenir, donc le texte que tu as lu, que je m'étais rendu compte de l'âge qu'elle avait, en fait, parce que je pense que spontanément, j'ai cru que c'était une autrice plus âgée, en fait. Alors pourquoi ? On ne saura pas. Sans doute parce que, bah oui, la première partie de sa poésie, elle montre quand même quelque chose de peut-être d'une certaine profondeur que spontanément j'ai. Voilà, je pensais qu'il y avait plus d'expérience de vie, mais encore, voilà, ça paraît des choses désuètes à dire comme ça. Là, elle parle de Peppa Pig, de Naruto. Il y a des petites choses qui m'ont mis sur la voie de me dire, non mais attends, elle a quel âge en fait ? Parce que j'étais en... Voilà, il y avait deux réalités. Tu fais partie de cette même génération qu'elle. Vous êtes née à 2 ans d'écart, donc voilà. Quand tu l'as traduite, t'as remarqué, parce que t'étais peut-être un petit peu surprise que je te dise ça, que je me suis rendu compte par la lecture au fur et à mesure de l'âge qu'elle avait. Est-ce que tu as été confrontée en russe, de ce fait, à un vocabulaire qui trahissait, entre guillemets, de l'âge qu'elle avait, de cette génération-là ? Parce que qui écrit dans les années 2010, c'est assez particulier.
Justement, en fait, un peu comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai quand même l'impression que, voilà, de partager un certain nombre d'expériences, enfin, ou en tout cas d'avoir un certain nombre d'expériences commensurables, enfin, voilà, des expériences d'adolescence, de se défoncer dans des squats ou de fumer des joints, enfin, voilà, bon, tout ça, à la fois, que d'avoir partagé les expériences de l'auteur ou de l'autrice qu'on traduit, c'est hyper important pour trouver le mot juste, quand on est dans de l'argot, dans tout ça. En même temps, moi, j'ai pas vécu d'adolescence en Russie, donc il y avait tout un langage qui m'échappait et où j'ai dû faire des recherches pour traduire le langage des jeunes de là-bas. Enfin, donc c'est moi, ça, c'est aussi tout un truc, quoi, parce que qu'ont pas mal d'enfants d'immigrés, mais que de longtemps de pas avoir j'ai appris les gros mots russes très tard. Enfin, donc il y avait tout ça. Et en même temps, il y a cette adolescence dont garde trace le livre, quoi. Et donc pour moi, c'était surtout ça. C'était en fait plutôt d'avoir ce vocabulaire en français et de devoir me l'approprier en russe. Et voilà, j'aurais été incapable d'échanger avec des jeunes qui auraient pu me ressembler en Russie parce que je ne maîtrisais pas leur langue, a priori. Il y a des signes du temps. Enfin, il y a Instagram, il y a Facebook, enfin, il y a un peu tout ça. Mais bon, oui, c'est vrai qu'elle pourrait avoir 10 ans de plus. Bon, après, voilà, il y a aussi le fait que les vies de femmes... en Russie ne sont quand même pas les mêmes et qu'il y en a plein qui deviennent mères très jeunes, enfin qu'elle avait la vingtaine quand elle était mère et en même temps elle était poète, militante, plein de choses, enfin, et que ça c'est vraiment un héritage de l'Union soviétique, d'être dans la double vie et dans la conciliation sans se plaindre, enfin dans un truc où c'est complètement normal et où on ne choisissait pas l'un ou l'autre, et, enfin voilà, ou en tout cas c'est très courant de devoir être les deux. Donc, voilà. Donc, c'est quand même aussi une vingtaine traversée avec un petit bébé qui n'apparaît finalement que plusieurs années plus tard dans ses textes. Qui étaient d'abord des textes plutôt militants où cette autre réalité qu'elle vivait n'a pu s'écrire que plus tard, en fait.
Mais c'est d'autant plus... chouette et perturbant, que ce ne soit pas chronologique, ce recueil. Parce que de ce fait, on rencontre son écriture à des endroits différents et on se fait surprendre par toutes ces réalités sans qu'il y ait quelque chose d'un acquis, parce qu'on a l'habitude, dans des recueils, que ce soit plutôt chronologique. Mmh. On commence par les textes, alors je ne sais plus comment on le dit, mais en tout cas, pas d'adolescence, mais en tout cas, les premiers textes, et puis après, on va... Voilà. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est plutôt... Ça rencontre, en fait, ces engagements politiques. Ça a bien été pensé... en mettant ça en avant, en fait, son expérience éco-politique, plutôt que juste sa trame de vie, quoi. C'est une lecture vraiment intéressante dans ce sens-là. Et c'est chouette que tu l'expliques au début. Ça permet vraiment de faire un autre sens et d'ajouter ce sens-là. Est-ce que tu serais d'accord de nous lire la toute dernière ?
La dernière partie. Ouais.
Voilà, comme ça, ça nous laisse... sur ce dernier poème.
Nuit, allongée aux frontières. Ils n'ont ni mouvement ni sommeil, le jour s'arrache à la nuit, et la nuit cloue le jour dans la terre. Il y a celui qui tient le chien par le cou et s'envole dans la nuit avec lui, en prononçant des choses déliées. Là où nous sommes désormais, je te traîne par les poignets dans le cri du temps, là où auparavant, des objets avaient leur place. Ta peau et ton ventre possèdent, le vivant ne respire pas, le monde est devenu silencieux. Mer hivernale, dont le vent déchiquette le visage, les mots, que j'aimerais t'envoyer de là-bas ne trouvent pas leur place. Le monde est devenu silencieux. Au large, rien que bosses de glace et un tesson de bouteille, quelque chose bouge autour du corps, cherchant une vieille langue à transmettre à d'autres locuteurs. Un traînos, la chanson du village, et au-dessus, les verres teintent, le bruit porte, ils reviennent, nuit après nuit. Un homme se tient à la chaîne, s'agrippe à la machine, se cogne au grillage. Nous sommes assis. Nous pleurons pour ne pas parler, quand l'un de nous est emporté vers le terrain avec la pierre. J'aime, comme maman en moi énonce cet amour avec timidité, comme père embrasse la terre en moi, la lignée se déplie en un lien étrange, le sang accueille le sang, délié. Peur de boire dans un grand verre, étrange de manger ce pain, comme d'autres n'en mangent pas, honte de porter ses chaussures, dur d'être couché sans se serrer contre la terre, sans déplacer la nuit vers le plus proche. Ce souvenir, comme tu as dit, en n'enlaçant pas le corps, mais un fragment de lointain, ce que le monde ne sera pas, ce qui se tait sous l'être tel qu'on l'avait imaginé, sans souvenir. Le quartier s'est installé en nous, et nous en lui, un peu installés. Bientôt nous verrons nos amis, il faut des forces. Et ce qui bien sûr se passera, et ce qui est prononcé pour nous, et ce qui ne juge pas, en sombrant dans la peur, ne craint pas le plus proche, ce qui est à la mesure de nos forces et ce qui ne pourra jamais être organisé n'a de sens qu'en rêve, quand un filet coule de la bouche. Le lien. Nous attendions les plus proches, mais ils ont fini ailleurs, parmi les seuls insurgés, et tentaient de nous dire depuis là-bas, via les salles de l'imagination, comment être complice maintenant, penser une communauté de pensées. Et le fait que nous soyons allongés aux frontières et qu'elles fondent ces frontières depuis si longtemps, que leur origine n'est plus traçable, et les locuteurs sans mémoire attendent leur force violentée, et toi, si inquiet, quand tu passes d'un état à l'autre, ne sais pas ce qu'on te dira là-bas. Tout comme la communauté de pensée, pensée longtemps avant nous, la nuit demande à s'étirer jusqu'à la terre, à tirer le quartier en elle, devenir une maison sans serrure, une nature sans crainte, enlacée autrement.
Magnifique. Merci beaucoup, Marina.
Merci beaucoup, Swazik.
Alors, heureuse, vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchi Podcast en compagnie de Marina Skalova, à l'occasion de la publication de sa traduction de « Tuer l'avenir », un recueil de poésie de l'autrice Galina Rimbou aux éditions Ventloup. L'Affranchi Podcast, c'est Swazik Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore, et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchi Podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.